Coucou tout le monde, bienvenue sur Audi3. Aujourd'hui on parle de droit de la famille. C'est votre serviteur dévoué, Calvin Kevis, vous connaissez déjà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à repréciser certaines choses. Je suis étudiant en droit, en master droit public. Vous comprenez mon amour pour le droit public alors, pour les étudiants de droit public du moins. Donc, comme je disais, aujourd'hui on parle de droit de la famille. Et bien évidemment, pour comprendre un sujet, il faut en définir les termes. Donc, on va d'abord définir ce que c'est que la famille. Ensuite, définir ce que c'est que le droit de la famille. Et rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les unions paramatrimoniales. Et plus précisément, l'union libre. Mais avant, il faut d'abord définir ce qu'on entend par droit de la famille et ce qu'on entend par la famille. Donc, la famille, selon la constitution gabonaise, c'est la cellule de base de la société. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la cellule de base de la société ? En fait, la famille, c'est d'abord le lieu où se forment les citoyens de demain. C'est d'abord là-bas, c'est d'abord dans la famille qu'on commence à former les citoyens de demain. C'est le rempart contre les mauvais ou bons citoyens. C'est-à-dire que si un enfant est mal éduqué, ce sera un mauvais citoyen de demain. D'accord ? Et c'est lui qui va former la société gabonaise, par exemple, de demain. C'est en cela que la famille est la cellule de base de la société. Mais cette définition n'est pas tout à fait correcte. Pourquoi ? Parce que la famille peut être définie aussi au sens, j'ai envie de dire, organique, dans le sens où la famille, c'est un ensemble de parents et d'enfants. D'accord ? Donc, on peut prendre ça au sens strict ou au sens large, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que la famille peut être un ensemble de personnes qui vivent sous le même toit, c'est-à-dire père, mère, enfant. D'accord ? Ça, c'est au sens un peu plus strict de la définition. Mais on peut aussi avoir un sens un peu plus large, c'est-à-dire que la famille peut être définie au sens clanique de la chose. Père, mère, tante, cousin, un tout petit peu. Ça, c'est la famille au sens clanique. Et c'est pas tout à fait méconnu du Code civil gabonais. Il y a quelques illustrations au niveau des articles 94 et 95 du Code civil. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil ou bien au niveau des articles 395 et 424. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Là où le législateur fait très clairement allusion à la possibilité d'intégrer un aspect coutumier de la famille. En Afrique, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire la possibilité de donner le nom par rapport à la coutume, la possibilité. Voilà. La reconnaissance faite par le législateur de la famille au sens coutumier au Gabon. C'est un petit peu ça. Maintenant, le droit de la famille. Bon, en fait, c'est simple. Le droit, c'est un ensemble de règles à caractère général, obligatoire, impersonnel, coercitif, etc. Donc, le droit de la famille, en fait, c'est juste l'ensemble des règles, toutes les dispositions relative à la formation de la famille, à la vie de la famille et à la dissolution de la famille. Un tout petit peu. Quelles sont les règles qui permettent de former une famille ? À quel moment on forme une famille, selon la loi ? À quel moment, en fait, quelles sont les règles qui permettent d'encadrer la vie de la famille pour qu'il n'y ait pas de discorde, etc., etc., etc. Et aussi, quelles sont les règles qui permettent d'entraîner la dissolution de la famille ? D'accord ? C'est un tout petit peu ça. Il y a des règles qui encadrent la dissolution de la famille. Et c'est toutes ces règles-là qui constituent le droit de la famille. Il faut également ajouter que la reconnaissance de la famille clanique n'est pas que faite par le législateur dans le Code civil gabonais. Elle est aussi faite par le juge dans le célèbre arrêt Kodjé, que les Gabonais connaissent bien, que tous les étudiants en droit devraient normalement connaître, qui reconnaît l'existence d'une famille clanique reposant sur les principes du droit coutumier. En effet, il s'agissait de l'annulation d'un mariage portant sur l'appartenance clanique des individus qui appartiennent au même clan ne pouvaient pas se marier selon les règles du droit coutumier chez les fonds. D'accord ? Donc, on voit bien que c'est une marque de reconnaissance de la part du juge de l'existence d'une famille clanique. même si le constituant gabonais nous dit que le mariage est le support légitime de la famille au Gabon, le droit gabonais reconnaît quand même l'existence de plusieurs types de familles. C'est ce qu'on a appelé les unions paramatrimoniales, à savoir l'union libre et les fiançailles, qui sont des unions de fait et qui ont un certain cadre juridique, qui bien évidemment n'est pas aussi exhaustif que celui du mariage, qui est une famille au sens légitime, mais qui ont nécessairement été encadrées par le législateur gabonais. Et tout à l'heure, on va parler de l'union libre. Et depuis tout à l'heure, je parle d'union paramatrimoniale et de famille légitime. Déjà, il faut bien comprendre ces termes-là. L'union paramatrimoniale, c'est toutes les unions qui ne sont pas le mariage. Toutes les unions qui ne sont pas célébrées par l'officier d'état civil. Mais attention, ces unions-là ne sont peut-être pas célébrées par l'officier d'état civil, mais sont quand même reconnues dans la loi. Parce que oui, la loi ne reconnaît pas l'union illégitime comme étant une union paramatrimoniale. Comment on a encore appelé cette union-là? L'union irrégulière. Le code civil ne reconnaît pas l'union irrégulière comme étant une union paramatrimoniale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une union irrégulière, par exemple? C'est le fait pour deux individus d'entretenir des rapports sexuels sans nécessairement vivre dans la même maison. Ça, c'est une union irrégulière. C'est le concubinage, c'est haram, comme on dit chez les musulmans. Donc, ce n'est pas une union paramatrimoniale, c'est plutôt une union irrégulière. Il faut faire la différence. Et les unions paramatrimoniales, bon bref, l'union paramatrimoniale donne naissance à ce qu'on a appelé la famille naturelle, d'accord? Tandis que l'union matrimoniale donne naissance à ce qu'on a appelé la famille légitime. Je l'avais déjà dit plus haut, il existe deux types d'unions paramatrimoniales, parmi lesquelles il y a les fiançailles et l'union libre. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à l'union libre, c'est-à-dire aux conditions de l'union libre, aux effets et à la dissolution de l'union libre. Aux conditions de l'union libre, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait emmener le législateur à déterminer que là, on est dans un cas d'union libre et pas dans un cas de liaison irrégulière? Parce qu'il faut vous rappeler, on disait que la liaison irrégulière, c'est le fait pour deux individus de coucher ensemble sans nécessairement vivre dans la même maison, sans être considérés notoirement comme mari et femme. D'accord? Mais ils couchent ensemble. D'accord? Ça, c'est considéré par le Code civil comme une union irrégulière. Mais quelle est la différence entre l'union libre et l'union irrégulière? Quelles sont les conditions pour acquérir le statut d'union libre? Quels en sont les effets? D'accord? Qu'est-ce que la loi préconise pour les personnes qui sont dans l'union libre? Et quel est le modèle de dissolution de cette union-là? Parce que oui, quand on est ensemble, ce n'est pas pour la vie nécessairement. On peut vouloir se séparer. Et comment on fait pour se séparer lorsqu'on a été déclaré être en union libre? Comment est-ce que ça se passe? Même si c'est une union de fait. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Quelles sont les conditions de l'union libre? Par quoi on peut identifier que là, on est en face d'une union libre? En fait, il y a deux types de conditions. Il y a des conditions liées à la stabilité de l'union et des conditions liées à la régularité de l'union. La régularité ici fait un peu penser à la légitimité de l'union. Ouais, un petit peu. C'est-à-dire que, par analogie avec le mariage, il y a certaines conditions. Tu ne peux pas te marier avec une mineure, encore qu'il y a une certaine majorité matrimoniale. Donc, en dessous de la majorité matrimoniale, tu ne peux pas te marier. D'accord? Donc, il y a aussi le fait que le mariage au Gabon, c'est une histoire de, on va dire ça comme, de personnes de sexe différent. Donc, par analogie avec le mariage, tu ne peux pas contracter une union libre avec un mineur, tu ne peux pas contracter une union libre avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Mais on reviendra là-dessus. Donc on va d'abord aborder les conditions liées à la stabilité. Et puis il faudrait qu'on soit d'accord. Lorsqu'on veut se marier, ou bien lorsqu'on a décidé de partager notre vie ensemble, on vit dans la même maison. Donc la première condition, c'est la communauté de vie. Et la communauté de vie a pour conséquence la communauté de comment on appelait ça, la communauté d'habitation et la communauté de lit. Il faut vivre dans la même maison, sur le même lit. Vous pouvez retrouver les références juridiques aux articles 377 et 380 du Code civil. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour retrouver ces deux conditions-là, la communauté d'habitation et la communauté de vie. Et la communauté de lit, autant pour moi. Donc, pour ce qui est des règles liées à la stabilité de l'union, on a des règles liées à la communauté de vie dont on vient de parler. Mais il y a aussi des règles liées à la durée de l'union. En effet, selon l'article 380 du Code civil gabonais, vous pouvez retrouver toutes les références là. L'union libre ne produit d'effet juridique que si la vie commune a duré au moins 2 ans. Attention, d'accord. Vous ne pouvez pas vivre 6 mois ensemble et puis vous allez dire que non, l'union libre. Ah non. Pour être déclaré en union libre, il faut avoir une vie commune d'au moins 2 ans. Donc, on réitère, vous devez vivre dans la même maison, sur le même lit, pendant au moins 2 ans. Ce sont les conditions de stabilité. Mais à côté de ça, il y a aussi les conditions liées à la régularité de l'union. Ça, on va aborder ça tout de suite. Donc, on a déjà abordé la question relative aux conditions de stabilité. Maintenant, on va aborder la question relative aux conditions de régularité. Donc, par analogie avec le mariage, il faut savoir qu'on ne peut pas être en union libre si on est 2 personnes de même sexe. Parce que oui, le mariage homosexuel n'est pas encore reconnu au Gabon. D'accord ? Ou du moins, par l'action du CTRI, ce décret-là, ce projet de loi-là a été annulé. D'accord ? Qui visait la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Attention. Pas qu'on visait nécessairement la reconnaissance du mariage homosexuel, non. On avait déjà un projet de loi qui visait la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Mais avec le CTRI a annulé ce projet de loi-là. Donc on est revenu à une situation un peu plus antérieure de ce qu'était le droit au Gabon. Donc, par analogie avec le mariage, on ne peut pas contracter une union libre lorsqu'on est 2 personnes de même sexe. Vous pouvez aller vérifier dans les articles 377 du Code civil gabonais. Mais on ne peut pas aussi, la deuxième condition, on ne peut pas aussi contracter une union libre avec une personne mineure. Ça, c'est l'article 259 du Code civil. Mais attention, qu'est-ce que c'est qu'une personne mineure exactement ? Donc, on va pas faire l'analogie avec le mariage cette fois-ci parce que il y a une majorité matrimoniale qui est de 18 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille. Ça, c'est inscrit dans le Code civil gabonais pour ce qui est de la liberté, de la majorité matrimoniale. Mais attention, pour ce qui est de l'union libre, on parle de la majorité tout court. Mais attention, l'article 492 du Code civil dit que la majorité, c'est 21 ans. Et il y a aussi le Code pénal, je ne sais plus quelle disposition, en tout cas on va vérifier plus tard, qui reprime le fait de former une union libre avec une personne mineure. Donc vous voyez que l'association du Code civil et du Code pénal font que une personne majeure ne peut pas contracter une union libre avec une personne mineure, ce qui en fait une condition de régularité. Une personne majeure ne peut pas contracter une union libre avec une personne mineure. C'est pas une union libre, c'est certainement une union irrégulière. Et donc c'est condamné par la loi. Et la majorité au Gabon, c'est 21 ans, selon l'article 492. Ouais, c'est 492 du code civil gabonais. Donc on ne peut être en union libre qu'avec une personne qui a 21 ans révolus. Mais après, il y a aussi des conditions liées à l'adultère, par exemple. C'est incroyable. Tu ne peux pas te dire être en union libre et être dans 2 unions libres. D'accord. Ça, c'est toujours par analogie avec le mariage. C'est-à-dire que tu peux être marié sous le régime monogamique et à entretenir une autre relation extra-conjugale, c'est de l'adultère. Donc c'est le même système calqué sur l'union légitime, c'est le même système avec l'union libre. On ne peut pas être dans une union libre reconnue par la loi et être dans une deuxième union libre, donc une union libre adultérine. Ça ne se fait pas. C'est toujours l'article 377 du Code civil gabonais. Mais à côté de ça, il y a aussi l'interdiction d'une union libre incestueuse. D'accord ? C'est-à-dire que deux personnes parentées, deux frères et sœurs, ne peuvent pas contracter une union libre. Donc on va récapituler un tout petit peu. Parmi les conditions de régularité, on a la condition de sexe. Deux personnes de même sexe ne peuvent pas contracter une union libre. Il y a l'âge, la majorité, qui est la majorité qui est encadrée par le code civil et le code pénal. Donc, une personne majeure ne peut pas contracter une union libre avec une personne mineure. Il y a les conditions liées à l'adultère, c'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une union libre et vouloir contracter une union libre, ou bien tu ne peux pas vouloir contracter une union libre avec une personne déjà mariée, ça ne se fait pas, d'accord ? Et il y a aussi l'interdiction de l'inceste dans l'union libre. On ne peut pas avoir une union libre incestueuse. Quels sont les effets de l'union libre ? Parce que oui, on va être en union libre parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, on ne va pas organiser de repas, on ne va pas donner de dot, même si la dot n'est pas encore reconnue officiellement au Gabon. Mais bon, c'est un projet qui est en cours, je crois. Donc, on ne veut pas dépenser d'argent, on ne veut pas se prononcer devant la famille, on ne veut pas cotiser, etc., etc. Donc, on veut être en union libre. Ok. Mais quels en sont les effets ? D'abord, les effets entre les deux personnes concernées. Quels sont les effets entre les deux individus concernés ? Déjà, il faut savoir que il y a des conditions liées à l'état matrimonial des individus. Par exemple, la femme peut porter le nom du mari, peut avoir sa nationalité, etc., etc., etc. Mais qu'en est-il de l'union libre ? En fait, la loi ne s'intéresse pas trop à l'union libre. La loi n'encadre pas l'état de l'union libre. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Parce que il n'y a pas de lien juridique entre les concubins. Donc il ne peut pas y exister des conditions. Il ne peut pas y avoir, par exemple, de devoir de fidélité. D'accord ? Donc les concubins ne sont pas soumis au devoir de fidélité qui est une condition dans le mariage, qui peut être une cause de dissolution du mariage. D'accord ? Ils peuvent à tout moment conclure et rompre librement leur union sans formalité particulière. Ils font ce qu'ils veulent, en vrai. On va dire ça comment ? C'est pas organisé comme le mariage. D'accord ? Et il n'existe pas d'obligation d'assistance en réalité. D'accord ? Parce qu'il faut aussi reconnaître que dans le mariage, il y a l'obligation d'assistance. Mais dans l'union libre, il n'y a pas d'obligation d'assistance autant pour moi. Sauf, je pense que c'est l'article 380 alinéa 2. Qui dit que il peut y avoir obligation d'assistance, bon, pas obligation d'assistance, il peut y avoir une aide, une assistance au partenaire ou au concubin lorsque celui-ci est atteint d'une maladie qui ne relève pas, par exemple, de l'ivresse, de la consommation de stupéfiants. Mais qu'attention, cette aide-là peut prendre fin si la maladie a commencé, si la maladie du conjoint a commencé. À la fin de la relation, c'est-à-dire qu'on est en couple, toi et moi, et lorsqu'on a fait une autre relation, toi ta maladie commence, ben je ne suis pas tenu de te porter assistance. Et ça c'était pour ce qui concernait les concubins, donc entre eux, vous n'avez aucune obligation, vous faites ce que vous voulez, d'accord ? C'est pas encadré par la loi, et vous n'êtes pas tenu de vous aider mutuellement, ce n'est pas également encadré par la loi, sauf exception. D'accord ? Mais le rapport avec les enfants. Bon, en fait, au niveau de la filiation naturelle, celle-ci est, on va dire ça comment ? Divisible et individuelle. Ça veut dire que chacun doit reconnaître l'enfant naturel. Chacun des parents doit reconnaître l'enfant naturel. Pour la mère, bon, il n'y a pas trop de difficultés par rapport à celle-ci. Mais pour le père, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que la filiation n'est établie que par la volonté du père ou par la recherche en paternité. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance faite par le père qui établit la filiation à son égard. Sauf recherche en paternité. Et la recherche en paternité est soumise à quelques conditions. C'est-à-dire que, on dit ça comment ? La mère doit avoir eu commerce intime avec le père pendant la période légale de conception. Ou bien le père doit avoir pourvu, par exemple à la grossesse, ou bien, je ne sais pas, quelque peu à l'entretien de l'enfant. D'accord ? Et il y a encore d'autres conditions à remplir. Une fois que les conditions sont remplies, la recherche en paternité doit être faite dans les brefs délais. D'accord ? Et aussi pour remettre les choses dans leur contexte. D'accord ? Un enfant naturel, c'est un enfant qui est né hors mariage, hors union matrimoniale. Tandis qu'un enfant qui est né dans l'union matrimoniale, c'est ce qu'on appelle un enfant légitime. Juste pour remettre les choses dans le contexte. Donc, on disait tout à l'heure que la reconnaissance, c'est celle qui établit la filiation à l'égard du père. Et qu'il ne peut être autrement en ce qui concerne l'enfant naturel. Mais on a aussi l'exercice de l'autorité parentale. En fait, il n'y a pas de distinction entre l'enfant légitime et l'enfant naturel en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale. Ce sont des articles, les articles 495 et suivants du Code civil qui encadrent à la fois l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant naturel et sur l'enfant légitime. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. C'est comme dans le mariage. On reviendra sur cette question-là lorsqu'on va aborder la question de l'union matrimoniale, plus amplement. Aussi, un élément important que j'allais oublier, le rapport pécuniaire des concubins. Comment ça se passe avec l'argent chez les concubins ? En fait, là aussi, le Code civil s'en fout un tout petit peu. Le Code civil s'en fout un tout petit peu, c'est-à-dire que le Code civil ne réglemente pas spécialement les conséquences patrimoniales de l'union libre. D'accord ? Même dans le rapport pécuniaire, autant pour moi, les concubins sont libres. D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent. Sauf quelques exceptions, bien évidemment. Lorsque le concubin ne peut pas survivre par ses propres moyens, à ce moment-là, l'autre concubin peut lui venir en aide. D'accord ? Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas inscrit dans le marbre pour dire que lorsqu'on est en concubinage, lorsqu'on est en union libre, je dois m'occuper de toi. Non, c'est écrit nulle part. C'est l'idée de la liberté pécuniaire. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. D'accord ? Et les dettes que tu vas engager, ce sera à ton nom et ce sera à toi de les rembourser. Tandis que dans le mariage, c'est différent. Les dettes de la femme seront les dettes du mari. D'accord ? C'est un principe en droit matrimonial. Tandis qu'en union libre, c'est différent. Tes dettes sont les tiennes. Si tu pars contracter une dette, même si c'est pour m'aider, c'est ta dette. Maintenant, la dissolution de l'union libre. Comment est-ce que ça se passe ? En fait, là aussi, le législateur s'en fout un peu. Mais en vrai, quoi. Le législateur, il n'en a rien à carrer, en vrai. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous pouvez rompre à tout moment, si vous voulez. Si l'idée vous traverse l'esprit, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez rompre à tout moment, comme vous voulez, selon les modalités que vous auriez définies. Le problème peut se poser par rapport à l'acquisition de biens communs. C'est-à-dire qu'on est en couple, on décide d'acheter des trucs ensemble, mais après, on décide de se séparer. D'accord ? De se séparer, qu'est-ce qu'on fait des biens que l'on a achetés ensemble? Tu as mis ton argent, j'ai mis mon argent. Comment est-ce que ça se passe? On n'a plus envie d'être ensemble. Comment est-ce que ça se passe? On fait comment? En fait, le juge va opérer un mécanisme simple. Il va s'appuyer sur la volonté des deux concubins à se réunir et à partager les biens. En fait, c'est juste ça. Mais dans certains ouvrages, vous allez trouver un vocabulaire un tout petit peu soutenu, rien que pour expliquer cette petite chose-là. En fait, c'est tout. Le juge va rechercher la volonté de partager les biens. Donc, une fois que le juge aura constaté, par exemple, que les deux concubins veulent se réunir, discuter par exemple de l'existence d'un contrat entre les deux pour le partage des biens, à ce moment-là, le juge va partager les biens en tenant compte de la proportionnalité de chacun, c'est-à-dire que de la faculté contributive de chacun. Si par exemple, moi j'ai donné 10 000 pour acheter une table, là j'ai donné 3 000, d'accord ? On va me donner la table et toi on va me donner la table et trois chaises, toi on va te donner une chaise, d'accord ? Bon, je présuppose, hein. Mais on va s'appuyer sur les facultés contributives de chacun. Aujourd'hui, le podcast a été particulièrement long parce que d'entrée de jeu, on a d'abord commencé à parler de la famille. On a commencé par définir ce que c'est que là, ce qu'on entend par famille, comme étant la cellule de base de la société. On a défini le droit de la famille qui disait que c'était l'ensemble des règles juridiques applicables à la formation de la famille, à la vie de la famille, à la dissolution de la famille. D'accord ? Et on s'est attaqué à un type de famille en particulier, la famille naturelle, précisément l'union libre, qui est une union paramatrimoniale, d'accord ? Qui est hors du mariage, avant le mariage, d'accord ? Ça prépare l'étape du mariage généralement. Donc, on a parlé des caractéristiques de l'union paramatrimoniale qui est le concubinage ou l'union libre. On a parlé des effets. Et on a parlé de la dissolution de l'union libre. Quelles sont les règles qui y sont attachées? Comment est-ce que ça se passe? D'accord? Merci beaucoup d'avoir suivi Audit Droit. À la prochaine.